Bonjour Philippe Bordas, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Nous parlons de ce livre qui était paru il y a plusieurs années aux éditions Fayard, l'invention de l'écriture autour de la figure de Brûlis Bouabré. Nous allons commencer cet interrogatoire par un extrait que tu vas nous lire, c'est la page 37.
J'ai rencontré l'écolier noir de Dallois devenu Cher Nadreau, le révélateur. Je l'ai connu dans ses 70 ans, tous l'appelaient le vieux. Il m'attendait à Abidjan, où sa réputation d'artiste vénéré au monde lointain n'était pas parvenue. Il m'attendait sous un auvent de tôle, œuvrant en pleine rue, entre colombes et poulets, écrivant et dessinant, malgré les ambulants, les petits vendeurs, malgré les chats maigres frôlant ses mollets, sans réplique contre le piaillement des porteuses de bassines et le déboulé des garçons fouetteurs de cerceaux.
Merci beaucoup Philippe. Comment s'effectue cette première rencontre avec Brûlis Bouabré en mars 1993?
En fait, la première fois que je l'ai vu, c'était pas à Abidjan, c'était à Paris. Il était venu pour une petite expo. C'était l'occasion de se rencontrer avant de faire un livre. On m'avait promis que je devais faire un livre avec lui. Et le premier rendez-vous, on s'est retrouvé devant Beaubourg, dans un petit café. Il faisait très très froid. Et lui est arrivé avec un petit chapeau noir, un costume noir tout étriqué, comme un jazzman de New York dans les années du bebop, une sorte de Charlie Parker nain et maigre, avec une grosse tête. Et on a bu un café. Il y avait une sorte d'étrangeté entre nous. Il était reconnu depuis très peu de temps, justement à Beaubourg, où il y avait eu l'exposition Les Magiciens de la Terre. Et j'ai réalisé tout de suite que ce n'était pas un rendez-vous social classique, qu'il fallait déjà, même à Paris, loin de sa patrie où il définissait ses lois, il fallait déjà que moi, à Paris, ma ville, j'obéisse à des lois qui étaient les siennes et qui simplement m'étaient imposées. Alors il a voulu m'amener pour faire une photo très importante pour lui, mais dont je n'avais pas du tout prévu la réalisation, au Musée de l'Homme, au Trocadéro. Et il n'y a pas le droit de faire des photos, c'était absolument interdit. Et il a absolument voulu que devant une carte de l'Afrique, dans le lieu de Théodore Monod, son maître, l'homme qui avait lu le premier sa théorie syllabique, son invention d'alphabet BT, et donc il l'avait avalisé, il a voulu faire une photo dans le lieu où son maître avait régné, très symbolique pour lui, devant une carte d'Afrique. Et entre le passage des gardiens, j'ai sorti un grand angle qui me permettait d'être à un mètre de lui. Et là, ce petit bonhomme du bebop africain avec son chapeau de Charlie Parker a été immortalisé devant une carte d'Afrique. Et aujourd'hui, ça reste vraiment emblématique de l'homme qui est sorti de la carte, qui est sorti de sa géographie comme un inventeur et qui est né non seulement de la confirmation de Théodore Monod, savant français, mais qui voulait par-dessus tout être immortalisé inventeur d'Afrique à Paris, puisque évidemment il est né de la langue française et il n'a pu inventer sa langue qu'à partir de l'exemple des grands écrivains français, des inventeurs comme Victor Hugo et tous les autres.
Brûlis Bouabré, dans quelle situation naît-il en Côte d'Ivoire? Tu écris, il désengage sa force du service des Blancs.
Alors Brûlis vient d'une région du nord de la Côte d'Ivoire, une région productrice de bois magnifique et de cacao. Donc c'est un enfant d'un petit village qui s'appelle Zéprégué, dans la forêt primaire d'une ville qui s'appelle Dallois. C'est encore plus au nord que la ville de la grande cathédrale qui a fait construire le président Oufouette. Et là, lui, son père n'est rien du tout. Et il n'a aucune licence à étudier, aucun droit à rentrer dans l'école des Blancs, parce qu'il n'y avait pas d'école africaine, mais pour entrer dans l'école des Blancs, il fallait quand même un certain rang. Et n'étant rien, les colons le soumettent à une sorte d'esclavage déguisé, qu'à l'époque ils appellent travail forcé. Donc aujourd'hui, quand on arrive à Zéprégué depuis Abidjan, on roule en bus ou en voiture sur une route bitumée, toute droite et rectiligne, mais qui a été damé, caillassé, ensablé et bitumé par des enfants de rien, et dont Brully dans les années 20. Et Brully, au milieu du travail, comme un petit voyou du Far West, s'enfuit et décide de quitter l'esclavage et arrive tout fier devant l'école et s'invente un pédigré neuf pour pouvoir intégrer l'école des Blancs en disant qu'il est fils de chef. Donc d'un mensonge éhonté, il arrive à intégrer l'école française et là, en très peu de temps, parce que ben voilà, il est surdoué, il a une volonté, il a un don, il apprend la langue française, il intègre et il absorbe l'alphabet français et toute la poésie et toute la littérature qu'on lui donne à réciter. Et en très peu de temps, on peut dire qu'il devient un premier apprenti de la langue des Blancs.
Il devient un premier apprenti, il va se faire un peu scribe, il va travailler dans l'administration. Il va aussi avoir, à un moment donné, je crois que c'est en 1947, une sorte de révélation, une révélation divine. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu mystique, mais qui va le mettre en ambition pour autre chose, pour une autre manière de procéder, et notamment une manière de faire à la fois encyclopédie et d'apporter une langue écrite à la langue orale de son groupe.
Effectivement, quand on est juste initié à la langue française, la première chose que font les colons, c'est de vous utiliser comme scribe. Ce que Brully, de façon négative et autodépréciative, appelle « commis aux écritures ». Ce qui est magnifique comme expression, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi considérer que 80% des écrivains sont commis aux écritures. Mais lui va dépasser ce stade. D'une façon involontaire, il est à Dakar dans un état de dénuement total, de faim. C'est la guerre, c'est l'époque de l'administration coloniale, de l'Afrique, vraiment de l'Afrique sous domination. Et dans une ruelle de Dakar que j'ai retrouvée, au petit matin, allant prendre ses fonctions de scribe de sous-étage dans un bâtiment des Blancs, le soleil le frappe en plein iris, et là, il a un foudroiement oculaire, il voit se déplacer plusieurs sphères et plusieurs couleurs, une sorte d'arc-en-ciel tournant, il voit autour du soleil une rotation d'astres, et il entend une voix, il entend un appel qui lui demande, lui, petit Brully, de se révéler comme prophète et de révéler à son peuple peut-être un langage, peut-être une voix, peut-être un... C'est juste un appel. On lui demande, en somme, de trouver une forme originale de réalisation pour un peuple opprimé. Et dans ce moment-là, ça pourrait être l'appel aux armes ou autre chose, ou le prophétisme religieux direct, le prêche dans les marchés, au milieu des dockers et des enfants sans gîte. Mais pour lui, très vite, l'appel de Dieu va être l'appel au Verbe, la nécessité pour supplanter les Blancs et le langage français si magique d'inventer, lui, un langage noir aussi magique que ce langage français qui l'a tant fasciné et pour lequel il a pris des risques en mentant, en se faisant passer pour un fils de chef.
Je vais te lire. Soumis à Dieu, sommet d'inventer une écriture noire et restituer l'Afrique à sa splendeur passée, un petit fonctionnaire ivoirien, gratte-papier sous le colonnat français, occupe ses matins et ses nuits à l'établissement gigantique d'une encyclopédie. Il y a aussi une encyclopédie du savoir global, du savoir total, qui est en jeu.
Mais en fait, Brully, dans sa volonté de libération, se libère pas du tout de deux syndromes typiquement français qui sont, un, la surpuissance poétique intrinsèque de la langue, qui est une sorte d'orgueil supranational et qui fait que la langue française, depuis Rivarol, s'imagine des droits de radiation poétique supérieure à toutes les autres. Et en plus, il y a cet appel de la liberté née de la Révolution et des encyclopédistes et de Diderot, à savoir que l'homme libre, par la force de sa langue et la diffusion de sa langue dans tous les recoins de l'observation du monde, peut arriver à la constitution d'une encyclopédie, d'un savoir absolu, qui n'est pas autre chose que l'expansion d'un besoin de liberté. Donc, la liberté des paysans français qui ont fait la Révolution, la liberté des libres penseurs français qui ont fait l'encyclopédie, un enfant inculte des forêts primaires de Dallois, au plein cœur de la Côte d'Ivoire, les reprend à son compte. Et cet enfant va inventer un langage. Il va à un moment, en regardant les petits rochers volcaniques sur le sol de son village, qui sont des pierres qui ont des incises géométriques très violentes, qui sont nées d'une scission volcanique classique. En regardant ces signes, il va avoir l'idée de premier pictogramme et d'un deuxième pictogramme, et il va faire un syllabaire de 448 pièces qui va représenter un alphabet. Et avec cela, il va constituer une langue totalement originelle. À chaque syllabe, à chaque pictogramme correspondra un son de sa langue orale d'enfance, le bété, qu'il va mettre en équation ensuite, en traduisant tout le savoir qu'il a lu dans les livres. Il va traduire tout Musset, tout Hugo dans cette langue qu'il a inventée, mais c'est surtout qu'il va commencer un travail absolument hallucinant, comme d'Alembert et Diderot, de constitution encyclopédique. Donc, c'est pas juste les techniques, les savoirs de l'Égypte à la Mésopotamie qu'il va vouloir remettre en plan, mais simplement ce qu'il a sous les yeux, l'art de la chasse, les récits oraux, la façon de survivre en brousse et de cultiver. Et puis même, ça va arriver à un moment jusqu'à un délire total, où il va aussi, de la même façon que les Blancs sont venus en Afrique pour voler le savoir noir et le mettre dans les musées, Brully va opérer une extraction comme on gobe un œuf. Il va décider de reprendre toute la force du savoir africain entreposé par les Blancs dans les musées, le ramener vers l'Afrique. Et donc, à ce moment-là, on le voit faire des versions littéraires et illustrées de la Divine Comédie de Dante, façon pour un petit noir de la brousse de faire l'opération inverse des opérations faites par Léris dans la Grande Croisière Jaune, qui ont pris des œuvres, et comme Malraux et tant d'autres, pour les mettre dans les musées et au Musée de l'Homme. Lui, il reprend le savoir blanc qu'il remet dans sa langue africaine. Donc, il y a une lutte de transvasement archimédique du grand savoir africain et du grand savoir occidental d'un continent vers l'autre.
Et lorsque tu le rencontres en mars 1993, tu sais déjà tout ça? Ou c'est des choses que tu vas découvrir en le rencontrant? Tu le rencontres, bien entendu, déjà à Beaubourg, à Paris, pour cette exposition-là, d'accord? Mais quand tu vas chez lui à Abidjan en mars 1993, est-ce que tu sais déjà ça? Ou est-ce que tu l'apprends l'ensemble, dans le détail, en le rencontrant? Et aussi, pourquoi tu le rencontres en mars 1993 à Abidjan, chez lui?
Bon, à l'époque, c'est simplement l'éditeur Éric Azan qui veut faire, avec la conjonction de Jean-Jacques Mandel, une nouvelle collection sur les arts premiers. Et le premier volume le plus emblématique, c'est de faire un livre sur Brully Boisbray. Ça, c'était bien avant le Quai Branly, bien avant d'autres opérations. C'était le coup de génie de ce Jean-Jacques Mandel, qui était toujours un grand amoureux de l'Afrique. Mais moi, quand j'arrive là-bas, je sais absolument rien. Je pense juste que je suis face à une sorte d'illuminé un peu autoritaire, et arrivé à Abidjan, c'est quand même très inquiétant, c'est la nuit, il fait humide, je suis dans un bus collectif, et le matin j'arrive dans un quartier complètement délabré à Noumambo, au milieu des flaques d'eau, parce qu'il pleut tout le temps dans ces pays tropicaux, et puis sous un auvent, devant la maison, je le reconnais de loin parce que j'ai vu des photos, je vois un homme en tongs avec un grand pagne, entouré de colombes et de poulets, qui écrit de façon invariable et calme, et qui me salue et qui prend son temps pour m'accueillir, et qui peu à peu, je ne dis pas va m'initier, parce que ce n'est pas une question d'initiation, c'est une question de me mettre dans sa temporalité pour que j'observe sa façon. Mais très très vite, il m'oblige non pas à le photographier comme je l'entends, mais à me diriger vers les scènes et vers les lettrages vivants que lui a décidé comme significatifs. C'est-à-dire que à un moment, il devient assez autoritaire et moi, je deviens non pas l'artiste, entre guillemets, photographe qui vient pour ponctionner des images de cet homme au travail selon son seul désir, mais je deviens l'automate et le commis. Je deviens le commis aux photographies de cet homme qui est devenu chef et encyclopédiste et plus français que moi. Parce que d'emblée, il y a un truc qui s'établit, c'est que c'est lui le maître des lettres blanches et noires. Et donc, je suis son affidé et son serviteur. C'est très étrange, mais en une semaine, cette chose-là est complètement établie. Et le jour où on quitte Abidjan pour aller dans son village en bus, c'est moi qui porte les sacs, mon sac photo, mais le sac où il y a ses bibles et tous ses registres et toutes ses écritures.
Parce que quand tu le rencontres en 1993, tu n'as pas encore le projet de ce livre, L'invention de l'écriture, que tu écriras 15 ans après, en fait. Et d'ailleurs, ce qui te fait dire, moi, l'écolier, ne pouvant qu'œuvrer au contre-don d'un livre futur à destination d'Occident, au devoir de légender le champollion des bois. Donc, parce que 15 ans après, quand tu écris le livre, bien entendu, tu as conscience de qui est Brûly Bouabré, qui est décédé entre-temps. Tu essaies de le porter à hauteur de légende, parce que tu sais du coup absolument qui il est. Et alors, tu sais qui il est parce que pendant ce moment en 1993 où tu le rencontres, au bout de quelques jours, il te fait part en fait de son grand secret. Pour l'instant, vous étiez à Abidjan, mais il va t'emmener, il va te transporter en bus. Et déjà, ce transport en bus est un périple parce que le chauffeur que tu décris le chauffeur de bus que tu décris en rasta, en fait, s'arrête 100 mètres après le bon arrêt. Et du coup, tu racontes cette scène mémorable où Brûly sermonce, enfin plus que sermonce, vraiment une colère froide vis-à-vis du jeune chauffeur en disant que c'était lui, le jeune, qui avait construit cette route et qu'il faut que le car fasse une marche arrière de 100 mètres pour s'arrêter au bon endroit. Enfin, c'est une scène absolument mémorable. Et là, tu vas prendre conscience en 1993 de la somme des manuscrits non publié de cette encyclopédie, de cette écriture de Brûly Bouabré qui est à l'abri dans une case, dans une sorte de forêt, enfin non, pas dans une sorte, dans une forêt qui a eu une importance.
C'est vrai qu'à Paris, Brûly, il est né d'une grande exposition faite par André Magnin en 89 à Beaubourg qui s'appelait Les magiciens de la Terre. Donc Brûly arrive et né comme artiste plasticien en laissant découvrir des petits tarots, des petites cartes d'un format toujours le même, je ne sais plus si c'est 10 sur 13 cm, je ne sais plus exactement, c'est tout petit, sur lequel il fait un dessin qui est significatif et qui le encadre d'une légende manuscrite explicative. Alors on va se dire pourquoi ce format ? Ce format, c'est juste le format du cartonnage le moins cher pour un homme pauvre qui court les magasins des coiffeuses d'Abidjan parce que les Ivoiriennes sont très coquettes et veulent des tresses. Et les tresses sont des tresses synthétiques chinoises qui sont emballées et sur des cartonnages Darling. Darling, c'est le nom des tresses, qui ont exactement le format des cartes de Brûly. Et que le matin, avec Brûly, je l'ai vécu, on allait faire les poubelles des coiffeuses pour ramasser les cartonnages pour qu'ils fassent des œuvres qui ont été vendues ensuite à des milliers d'euros dans le monde entier. Et donc, on prend le bus, je porte ces sacs, et effectivement, moi, je ne vois rien. Je vois juste la petite pancarte Zépréguée et ce chauffeur rasta avec en train de sucer son bâton de ganja ou je ne sais quoi, là, de cat, pour le maintenir en éveil, complètement désinvolte, avec la musique à fond. Et d'un seul coup, Brûly, on était à l'extrême fond du bus, et il me dit « prends les sacs ». Et moi, je dis « je prends les sacs, je suis persuadé qu'on va descendre ». Donc on arrive devant le chauffeur, une sorte de Peter Tosh complètement déglingué sur son fauteuil, et Brûly lui dit « écoute, là, vraiment petit, tu vas me mettre le bus devant ma maison même, à l'endroit que j'ai fait. J'imite un peu bêtement l'accent, mais remets-moi le bus à l'endroit même de la route que j'ai faite de mes mains quand j'étais enfant, alors que tu n'étais pas né. Et le mec a vite compris qu'il était face à un maître. Et là, j'ai entendu le grincement de la marche arrière du vieux bus pourri de la STIF, qui est le nom de la compagnie abidjanaise. Et on a juste fait 55 mètres en marche arrière. Et là, il a ouvert la porte et on est descendu. J'ai porté les sacs et j'ai senti Brûlis totalement satisfait d'avoir imposé sa loi. Donc là, lui, il m'a amené voir tous ses vieux frères qui avaient tous déjà 85 ans. Et bon, il n'y avait pas de place pour moi. J'étais logé à Dalhousie dans un hôtel absolument désert pour les voyageurs, les businessmen et les riches qui s'appelaient les ambassadeurs. C'était extrêmement angoissant. Le premier matin, j'arrive et là, je le suis dans la forêt. Une forêt, mais énorme, absolument terrifiante, où tout de suite, au lieu de suivre le chemin, il commence d'abord par passer son temps à faire tout ce que je déteste, à retourner les feuilles pour voir tous les insectes et les larves et les grosses limaces et les scolopendres géants qu'il touche, qu'il caresse et qu'il garde et qu'il vénère. Et s'il voit qu'une limace a laissé une inscription sur une feuille, un méandre baveux dégueulasse, il le prend, il le met dans un petit paquet. Parce que ça va faire partie de son encyclopédie, ce sera le langage non écrit mais visuellement lisible de la limace sur la feuille de tel arbre. Bon. Et ensuite, on arrive au bout de 2-3 km dans une bibliothèque des bois, une sorte de hangar tollé, où là, c'est des murs en terre, on ne peut pas rentrer comme on veut. Sur le sol, je vois, sur le ciment, un ciment lisse mais assez grossier, une carte d'Afrique dessinée comme si la croûte s'était écorchée et arrachée, mais ça fait une carte d'Afrique. C'est la double initiation, la même carte d'Afrique devant laquelle je l'avais photographiée au musée de l'Homme. Je la revois par terre sur le sol, et avant de rentrer, c'est le grand cérémonial qui commence. Pour moi, là, ça a été un moment terrible. Il commence à remettre les petites pierres volcaniques à partir desquelles il a inventé l'écriture, qu'il dispose à l'intérieur de cette anfractuosité du ciment qui dessine une carte d'Afrique. Il lâche du liquide et des petits crachats et des ablutions. C'est-à-dire que c'est l'Afrique qui nous autorise à rentrer dans cette chapelle. Et là, je crois que c'est assez long. Je comprends rien du tout, parce que je ne comprends pas son langage. Il y a des paysans qui nous suivent, mais qui ne sont pas des paysans, ce sont ses disciples, les seules personnes qui parlent son langage bété et qui savent écrire l'écriture inventée par lui. Et là, il y a un gardien de temple, un homme tout en blanc, qui attend devant la porte et commence le cérémonial d'entrée vers les œuvres. C'est-à-dire qu'un écrivain qui vous présente ses livres, il vous tend une reliure. Là, il y a une porte. Dans un mur de terre rouge, c'est de la terre toute craquelée, et une barre en bois au-dessus de cette porte avec une petite clochette. Et le maître de cérémonie tout en blanc, le gardien du temple, fait sonner la clochette, Brûlis retape sur la clochette. Donc déjà, peut-être des autorités extra-visibles attendent notre signal pour entrer, Brûlis envoie ce son. Et ensuite on rentre, et là, dans une pièce totalement obscure, à peine ouverte par un petit volet à claire-voie sans fenêtre qui diffuse une lumière sur, je ne sais pas, peut-être 90 sacs en plastique. Mais vous savez, c'est les gros sacs qu'on achète chez Tati quand on est immigré pour revenir au pays chargé d'habits, de victuailles et de téléviseurs. Là, il y a toutes ces œuvres. Je ne vois que des cahiers remplis jusqu'à ras-bord et je distingue un peu les écritures manuscrites et tous les cahiers sont bien recouverts de plastique pour ne pas être détruits par l'eau. Et là, avant même d'avoir le droit de regarder, je dois subir la cérémonie infernale d'initiation parce que vraiment là, ça a été un truc très angoissant pour moi. Il est devant une sorte de malle en bois sur laquelle est disposée une grande vierge sculptée, une vierge horizontale. Donc, on voit déjà que Brûlis a inventé une écriture noire, une écriture africaine, mais encore tributaire, comme toutes les variations prophétiques africaines qui viennent du catholicisme, je vois cette grande Vierge. Et avant d'accéder à la grande Vierge, il faut que je laisse ouvrir une petite boîte dans laquelle il y a une autre Vierge plus petite, un emboîtement de poupées russes, et ensuite à l'intérieur de ça, une autre petite Vierge encore plus petite. Et après quoi, il sort une fiole d'un liquide entièrement verdâtre, mais je ne savais même pas ce que c'était. Il en boit une gorgée, il me dit « Tu vas devoir en boire toi maintenant pour savoir ». Et il dit, la phrase qui m'a le plus angoissé de ma vie, « Tu seras juste le deuxième blanc à goûter ce breuvage ». Et là, j'ai l'impression d'être dans les aventuriers de l'Arche perdue. Et je me dis, parce que je suis assez fragile en Afrique, et je bois quand même le breuvage, et là, je sais que toute la malarone, la quinine, tous les produits que j'ai pris contre les palus seront absolument inutiles face à ce liquide-là. J'ai jamais vu ça. C'est un mélange de liquide, de système de freinage de voiture et de jus de mangue putréfié. Je bois le truc et là, je me souviens même pas du goût. J'avais tellement peur que tout était bloqué. Les sens étaient paralysés. Et là, je commence à regarder les œuvres et ils me laissent le droit de photographier, d'ouvrir les cahiers. Et j'ai vu une œuvre, à part Victor Hugo, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en quantité sur cette terre.
Je vais te lire longuement sur deux pages. Œuvre laissée à macérer dans la remise forestière, ouvrage de nature et ouvrage de pensée, écrit en français, écrit en bété ou en double alphabet. Je ne peux donner qu'une recension de titres à ce jeu poussiéreux d'ouvrir et fermer les sacs dans une chapelle d'argile où la lumière ne vient pas. Les cris du grillon et du mille-pattes contradictoires. L'art et la ruse. Le cri accusateur du toucan contre son parent. Le palmier rafia. La découverte d'une antilope morte. Art cinégétique bété. La panthère et la loutre. La pêche de la panthère et du mouton. Les cris du coq et de la pintade. Une méthodologie de la nouvelle écriture africaine. Le cri de la caille. L'œuf lait de cigogne. Le cri du tisserin de la forêt. L'oriot. Le chimpanzé et la logique de l'amour. Les cris des tisserins de la cité. Éternel et vivant et volant. Les cris du toucan nain et du coucou roux. L'araignée et l'éléphant. Les sublimités de la race noire. Histoire de la pierre suspendue. L'origine de l'existence. Le soleil et la mer. Le riz et ses légendes. On ne compte pas les étoiles. Poids à peser l'or ou écriture pictographique. Les antiquités de l'Daloa. Solution brûlée au poids d'or. La science d'observation et le mystère de la vie. Le mariage de deux muses, la pensée et la science. Ou la légende et la lettre. Le bété, sa cosmogonie et la genèse de sa vie. Mon soleil africain. L'Africain et son autobiographie. Un génie noir dans le musée ivoirien. Et ça, ce ne sont que quelques éléments, Philippe, du coup, que tu découvres, que tu peux déchiffrer. Mais, en fait, il y en a bien d'autres. Et ça, c'est absolument incroyable que ça soit dans une chapelle avec un gardien dans une forêt.
Oui, à ce jour, il y a très très peu. Il y a les éditions Azan qui ont... En 95, j'avais donné quelques photos, édité une légende. La légende de Domin et Zézé, qui était un des textes, mais un des textes par milliers. Les éditions Xavier Barral ont fait un petit coffret de 4 livres magnifiques il y a quelques années, qui donne aussi un petit échantillon. Mais disons que tout ça, ça pourrait être absolument édité et mis en réserve par l'UNESCO et protégé pour toujours. Mais ce jour-là, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai pris le livre sur l'art cinégétique, l'art de la chasse des bétés, qui est un livre magnifique avec des dessins et des textes. Et donc, je lis ça, je regarde et je lui demande, pas à quoi sert le livre, quel est son usage. Mais très vite, il me dit que ce livre est destiné à une personne. Et d'un seul coup, là, ça tourne dans ma tête. Je ne suis pas encore devenu écrivain. mais j'ai pas encore l'idée que devenir écrivain, c'est de n'écrire que pour une personne. Mais l'art cynégétique BT de Brully a été écrit pour une seule personne que j'ai rencontrée et photographiée, qui était l'unique chasseur de ce village, et qui a eu droit à un texte claudélien et pongien de très très haute tenue, qui récapitulait ce qu'il faisait toute la journée sans savoir le formuler, comment chasser la biche, l'antilope, piéger le porc-épic, étouffer le serpent, lacérer la buse et les vautours, etc. Et bon, à force de discuter avec ce mec-là, on a parlé, il m'a servi du vin de palme. Et là, déjà après la petite boisson verte, j'ai quand même fini complètement détruit. Et je suis resté plusieurs jours allongé. Et là, j'ai cru vraiment que j'allais pas rentrer chez moi parce que je lisais les textes, il m'apportait des textes de plus en plus. Et c'est comme le vaccin, il voulait me guérir avec ce qui m'avait détruit, c'est-à-dire que le vin de palme était le seul remède à ce qui m'avait détruit, qui était exactement le vin de palme. Donc j'ai été en circuit fermé pendant plusieurs jours, entièrement infusé de vin de palme, dans un délire total. Bon, c'est pas du Conrad, mais ça ressemble quand même à une variante du petit blanc qui se demande ce qu'il fait là. Et là, de temps en temps, j'ouvrais l'œil, j'étais allongé sur pas une civière, parce qu'il n'y avait rien, mais un matelas complètement humidifié de l'urine des chiens. Et de l'œil, j'avais un œil complètement glauque, paludéen, et je regardais Brully qui, tranquillement, attendait que je guérisse. Et lui, ce salaud, continuait son œuvre. Il crachait livre sur livre du matin au soir pendant que j'étais en train d'essayer de survivre. Et j'ai eu l'exemple d'un mec totalement immuable aux problèmes des autres, extrêmement gentil, mais ailleurs. Et c'est vrai que, après, quand j'ai commencé à écrire et me mettre dans l'écriture, j'ai repensé à tout ça et j'ai réalisé un truc très simple, c'est que c'était une forme d'initiation, pas du tout grandiloquente et évidente, mais une initiation à l'oubli, parce que là je m'étais complètement oublié, à la vérification visuelle d'un homme qui dessine et écrit. Donc moi j'étais photographe et je me préparais à écrire, et j'ai dédié le livre à Francis Ponge. Mais quelque part, Brully est aussi même pas un modèle, parce que moi je suis né de la langue française et j'ai aimé évidemment Francis Ponge et tous les excités de Saint-Simon à Céline qui m'ont formé. Mais par Brully, j'ai vu s'opérer la synthèse d'un travail sur l'image d'un dessinateur de tarot dont le texte était légendaire, c'est-à-dire. Quand je dis que le texte était légendaire, c'était pas juste une mythologie, c'était un texte qui faisait légende d'image. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon écriture, mon seul propos, c'est d'arriver à une percolation de la vision et du verbe, et voilà, une immanence, une interdépendance totale des deux, sans qu'on sache si c'est l'image qui nous frappe ou le mot qui nous happe.
Mais il y a un problème avec Brully Buabré que tu résumes ainsi. Nommé des trois vertus, poète, encyclopédiste, dessinateur, Brully est renommé pour la dernière dont il n'attendait rien. Et alors se pose cette question que tu poses, je te relis à nouveau, de quel sortilège procéderait un monde dont les jurys d'académie n'auraient sélectionné de Victor Hugo que les seuls Lavis, gothique et d'ocre sombre, n'aurait plébiscité de Michaud que les seuls dessins, l'onirique sédiment. Se pose cette question, c'est que ça, l'œuvre graphique de Brully Buabré qui est connue, et pas ses textes.
Ah oui, c'est la grande douleur, c'est le chevalier sans secours. J'ai quelques œuvres de lui, dont un lion qui est chassé. Et ça m'a toujours ému parce que je le vois toujours comme si c'était lui. Il parle du fauve sans secours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes collections des africanistes, les œuvres de Brully atteignent des prix qui ne sont pas considérables, mais qui sont quand même conséquents. Mais c'est surtout que il est quand même considéré comme le plus grand artiste africain des dernières années, enfin de la dernière moitié du XXe siècle. Mais que comme poète, comme inventeur d'écriture, il est complètement minoré parce que ça ne rapporte pas d'argent. Donc la poésie est serve du marché. La poésie est en déficit permanent de légitimité. Et Brully, je ne vais pas le réclamer comme exemple de ce qu'on vit nous, mais ce qu'il a vécu lui, ne survivant que d'images simplifiées pour les analphabètes, parce qu'en fait il a fait des tarots aussi au départ pour enseigner sa doctrine et son rêve d'africanisme, de libération africaniste par le dessin, parce qu'il savait très bien que les gens des villages étaient analphabètes, il leur a enseigné ensuite sa langue, mais au départ il a fait les tarots pour les enseigner. Et ces petites plaquettes pour contrer l'analphabétisme et destinées aux analphabètes qui ont créé sa fortune et sa gloire. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est celle-là, elle est très simple. Est-ce que pour survivre, on ne doit produire que des œuvres pour les analphabètes et se réduire à cacher son langage, à minorer son langage, parce que ça ne se vend pas. Donc l'équation de survie, elle a été très simple. Et bon, moi, c'est un petit peu dur parce que Brully, il est arrivé très très vieux. Il a vécu jusqu'à 91 ans, qui est l'âge réel, civil. Mais on sait très bien que tout étant faux, il a peut-être 95 ans au final quand il est décédé. Mais nulle part, il n'est vraiment avalisé comme poète et comme inventeur. Mais son nom n'est que celui d'un homme du marché de l'art et d'un graphiste. Donc, il faut imaginer ce que j'ai dit, que Hugo et Michaud ne soient plus aujourd'hui que graphistes.
Parce qu'il y a ce problème, et j'aimerais, Philippe, que nous terminions tout l'entretien là-dessus, sur cette longue question et de l'écriture. Je vais te citer. « C'est une énigme inquiétante pour tout Africain, un mystère pour l'archéologue que cette rareté de langue spécifiquement africaine est justiciable d'un alphabet. C'est une violence pour le jeune écolier noir de Daloa, donc Broly Boabré, penché sur le manuel des poèmes d'Europe, de savoir son peuple exclu des lettres et comme débouté de l'universel. Et comme débouté de l'universel. »
Ah oui, c'est ça. Le besoin d'encyclopédie chez Brully, c'est de vouloir, et c'est ça qui est magnifique, on n'a jamais assez insisté là-dessus, créer un universel noir. L'universel, c'est l'universel blanc, né des Lumières et de la France. Et aujourd'hui, on sent bien que ça se fissure dans le monde. Aujourd'hui, là, toute la crise qu'on vit, l'islamisme et autres, c'est quand même une cataracte. Une fracture dans l'universel blanc qui n'est que d'Occident. Et Brully se sent débouté de cet universel-là. Donc ce qu'il veut faire, c'est que son art de la chasse destiné à un homme du village que j'ai vu, qui m'a offert du vin de palme, que cet art de la chasse devienne universel. Mais quand l'homme blanc crée une élégie pour chanter les fleuves, le Rhin, la Seine, la Loire, que ça aille de Maurice Sève jusqu'à Villon et jusqu'à Goethe. Quand ces poètes-là chantent un fleuve, ce fleuve a une valeur d'universel. Et pour Brully, il y a aussi le fait que il n'était jamais question de l'Afrique quand il lisait les grands poètes et les grands historiens français. Donc, c'est une sensation hallucinante que de lire les auteurs universels, universalistes. Je parle de Voltaire, de D'Alembert, de Diderot, que Brully a lu, hein. Il connaît Victor Hugo par cœur. Et que jamais, dans l'universel, soit nommée la contrée noire dont il est originaire. C'est quand même une violence terrible.
Et là, tu parles, Philippe, des héros noirs de l'alphabet. En sorte qu'il y a aussi des précurseurs à Brully Boabré. Tu cites Widow Zebo, tu cites Gbibi de Sanoya, tu cites, je ne suis pas forcément très très bon dans les prononciations, j'en suis désolé, Kissimi de Camara. Il y a aussi, très important, le sultan Joya. Voilà. Mais pour tout cela, tu dis que les écritures authentiques d'Afrique ne se peuvent consulter qu'au prix d'une fatigue physique et de périples longs. Qu'en sorte, ces langues écrites nous sont finalement inconnues. Nous n'en avons pas les livres à disposition pour les connaître.
Le plus grand des précurseurs de Brûlis-Boisbré, celui qui a inventé une écriture et qui, contrairement à Brûlis-Boisbré, qui avait un rêve présidentiel, national et autocratique, Brûlis aurait rêvé que sa langue s'impose dans toute la région nord de la Côte d'Ivoire et qu'il soit fêté comme un champollion par son propre État. Il a été ignoré et méprisé. Or, peu de temps avant, dans le nord du Cameroun, il y a eu un roi qui s'appelait le roi Njoya. J'ai fait deux voyages infernaux pour aller jusque là-bas, qui, comme lui, a inventé une écriture, l'écriture étant le préalable de l'indépendance politique et spirituelle. Donc, ce roi Njoya avait, sous la gouvernance française et ensuite allemande, inventé une écriture et avait réussi à l'imposer comme système administratif pour gouverner tout un pays. Donc je pense que c'est la première occurrence et unique occurrence en Afrique d'une libération par le verbe qui débouche sur une libération politique et un système économique administratif régi par un langage non dépendant des étrangers. Et la première chose que les Français ont fait quand ils ont conquis le Cameroun avant les Allemands, c'est pas de détruire l'armée, ni ceci, ni cela. Non, c'est de détruire les presses, de détruire les imprimeries, de détruire les alphabets. Donc, il y avait une guerre pour l'universel qui a été pressentie par les colons, par l'armée, et qui est un truc très précis. Et bon, après, ce roi a été un peu corrompu par les Allemands, mais il a gardé une image fabuleuse. Moi, je suis allé là-bas dans son royaume, j'ai photographié ses manuscrits, ses textes. Il est arrivé, je pense, c'est dommage, j'aurais aimé faire ce voyage avec Brûlis, parce que je pense que ça l'aurait ému aux larmes de voir comment, d'une invention d'écriture que lui a faite en autodidacte réprouvé, on pouvait inventer de façon gaullienne et churchillienne une sorte de nation et d'administration et de régulation, parce qu'il y a eu des écoles, il y a eu un système global né du verbe et d'un alphabet. Qu'une nation naisse d'un alphabet, toute la mythologie française depuis Michelet, c'est que la France naît de sa langue. Les attributs de la couronne, c'est toujours, quand on regarde bien, c'est les attributs de la cathédrale à Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, et la langue française. La langue française fait partie des attributs de la couronne. Pour un Africain, il n'y aura eu qu'une seule occurrence d'attribution d'une couronne par le langage, ça a été le roi Njoya dont Brûlis aurait pu s'inspirer.
Ce n'est pas rien, ce dont tu parles. Une guerre pour l'universel. Enfin, il y a un enjeu dans ces problématiques de colonisation, puis de décolonisation, d'avoir son propre langage, mais d'avoir sa propre langue écrite. Et forcément, alors se pose ce problème de la guerre pour l'universel. Parce que c'était bien ça, l'Europe. C'était bien ça, le découpage de l'Afrique par les Français, les Anglais, les Belges et les Allemands. C'était la Première Guerre mondiale avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale avait lieu déjà en Afrique à la fin du XIXe siècle. Il y avait ce problème de l'universel et l'Europe arrivait là en se disant « nous ». C'est nous l'universel, c'est nous le monde. Et forcément, après la décolonisation, se pose cette question fondamentale pour tout le continent subsaharien africain de se dire, mais alors, si notre langue n'est pas écrite, nous n'avons pas d'histoire et donc nous ne pouvons prétendre à l'universel. C'est tout l'enjeu du sultan Njoya et c'est tout l'enjeu de Brûlis-Boisbré et c'est toute leur ambition.
Et c'est sûr que c'est pour ça que ça a été un électrochoc à Dakar quand il y a eu le discours de Sarkozy sur le déficit historique de l'Afrique. Parce que, bon, simplement sur la question des chasseurs traditionnels sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, il y a eu des chartes démocratiques qui ont été édictées au Moyen-Âge africain sous Soundiata Keïta, sous l'Empire du Mali. Et il y a eu une antécédence de la volonté démocratique. Mais c'est surtout que la guerre pour l'universel, est toujours un trucage verbal. Aujourd'hui, l'universel n'est plus du tout prôné. La mondialisation l'a remplacé, mais la mondialisation, c'est un ersatz d'universel toujours utile et totalement fabriqué pour encore condamner les peuples du tiers-monde. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est encore uniquement un système monétaire et fiduciaire et d'exportation à sens unique qui exclut toute une partie du monde. Donc, c'est ce qui est extrêmement dur pour nous en tant que Français, c'est qu'on est inventeur d'un mot qui a été un vecteur d'humanisme et d'espoir. Et c'est vrai, quand vous allez partout dans le monde, vous parlez de Victor Hugo, c'est comme si d'un seul coup vous déclenchiez un éclair, une foudre. Mais pour la jeunesse aujourd'hui des pays africains, la douleur de Broly, c'est pas du tout quelque chose d'oublié, c'est absolument identique. La souffrance des enfants d'Afrique aujourd'hui, qui ont les outils informatiques et l'Internet pour voir des images et pour voir des richesses, ça reste extrêmement lointain pour eux. C'est même encore plus douloureux que pour Broly, parce qu'en fait, la mondialisation est toujours la même mise à sac. Ils n'ont pas les moyens de lutter. Et verbalement, il n'y a pas un seul pays du Maghreb qui s'est vraiment désenvoûté de la langue française. Aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à changer en Afrique noire. C'est-à-dire qu'au Mali, en Côte d'Ivoire, bah, les jeunes enfants, les adolescents, vous arrivez en tant que Français, vous parlez français, parfois ils ne vous comprennent pas. Mais il y a toujours le franc CFA, quand même une hallucination. Il y a toute une part de l'Afrique qui est soumise au franc CFA, qui est, c'est même pas un langage, c'est le chiffre de l'universel blanc qui règne toujours en Afrique.
J'aimerais que nous terminions sur cette question de la manière dont Broly Boabré est perçu en Côte d'Ivoire notamment. Je te cite. Il demeure sans gloire parmi les Ivoiriens qui le moquent comme double appartenant et pire, exproprié culturel, rebaptisé du nom de Gomenakpebe, véritable blanc-noir, signalé comme noir instruit en sciences européennes.
Oui, c'est vrai que pour les plus radicaux, Broly a toujours cette pulsion d'absorber la culture blanche, qui est extrêmement forte chez lui. Il y a aussi une forme d'opportunisme et d'ambition scolaire de parler mieux le français que les Français. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette bassesse culturelle incroyable des élites africaines qui ne se penchent jamais sur les génies de leur pays. C'est un truc absolument dingue et que j'ai constaté dans plusieurs pays. Au Burkina Faso, ils ont les plus grands cavaliers du monde. Mais quand il y a une prestation équestre, bah, le président Compaoré, qui a été destitué, faisait venir la garde nationale française pour faire des pirouettes sur la place d'armes. Donc, il y a toujours ce déficit-là.
Et alors, ces textes, toute son œuvre d'écriture que tu as pu percevoir, que tu as photographiée, dont tu dis qu'elle est immense, elle se trouve où maintenant qu'il est mort? Elle se trouve dans une bibliothèque, elle se trouve protégée, elle se trouve en cours d'édition ou elle est en train de dépérir?
Je sais pas du tout. Je sais que peut-être que cette espèce de chapelle bibliothèque à Zépréguet, avec la petite clochette et le gardien en blanc, a été préservée. Certaines œuvres ont dû être rapatriées par la famille et par André Magnien, qui est son collectionneur, je l'espère. Mais pour l'instant, j'ai aucune idée d'une édition complète de l'UNESCO ou d'une protection qu'aurait pu promulguer l'UNESCO ou un organisme international de cet ordre. Et je crains qu'aujourd'hui l'œuvre poétique soit complètement oubliée et peut-être même à un moment laissé à mourir, et que, parallèlement, de vente en revente, de collection en collection, d'expo en musée, de musée en biennale, les œuvres picturales prennent une valeur de plus en plus importante, et sans doute extrêmement importante, et qu'on en arrive à ce paradoxe d'un Victor Hugo dont les, je sais pas, 10 volumes de Pléiade seraient au pilon, et dont les encres de Chine et les ocres et les lavis seraient au Louvre en majesté et exportés au Qatar. Voilà, je ne sais pas. Je vois juste que pour moi, c'était une sorte de. Dans les textes que j'ai lus, il y avait quand même une facture pongienne et claudélienne, c'est-à-dire que ce qui m'a toujours frappé, et c'est l'essentiel dans toute cette histoire, c'est ce fait que c'est pas juste la rhétorique française que Brulli a absorbée, mais c'est plutôt ce qui a été majeur dans le siècle français dernier, l'apparition de poètes qui ont voulu ressouder la perception sensuelle, la perception de l'objet au mot. Donc c'est le système grec le plus simple, à savoir que le mot, par sa texture, sa facture, peut représenter l'objet. C'est une tentative utopique que tout poète a en tête, que Ponge a apportée à un certain point et que Claudel a reprise. Et ce que j'ai senti chez Brulli, c'était, avec des maladresses et des archaïsmes du transfert de la langue africaine vers la langue française, il y avait ce souci magique et de garder une adéquation entre la chose et le mot. Et c'est à me demander, justement, après coup, si des gens comme Claudel, comme Ponge et ces quelques personnes, Mallarmé c'est un peu différent, mais surtout Claudel et Ponge, n'ont pas été, à un moment, sans qu'ils le sachent, contaminés africainement par un petit élixir vert comme j'ai bu, ou un filtre qui les aurait obligés à reconsidérer tout cet arbitraire du signe, cette déréliction de la langue par rapport à la chose qui a fait l'aventure à la littérature européenne. Il y a eu un ressaisissement avec des Ponge, des Claudel, et peut-être qu'ils ont été mystiquement touchés, comme Ponge a été touché par la langue des Blancs. Peut-être qu'à un moment, on ne sait pas comment, ben, on sait que Claudel a été touché derrière un pilier de Notre-Dame par Rimbaud, mais est-ce qu'il n'y avait pas à un moment un filtre noir, un sorcier noir qui aurait influencé les plus grands des Blancs? Voilà, c'est la question que je me pose.
Merci beaucoup, Philippe Bordas. On parlait de l'invention de l'écriture.